L'œil et le pouvoir. Si vous avez peur d'avoir peur, n'écoutez pas cette nouvelle. C'est un joli chemin, et elle aussi est jolie. Nous nous tenons par la main. Elle est vêtue d'une peau d'ours d'un seul tenant, mais assez courte, pour laisser voir de fines jambes. Elle marche pieds nus. Son chapeau en poil de castor la protège du froid vif qui règne ici, à Maumuille, proche de l'embouchure du Bèze et de la Drôme. Elle me dit, avec son inimitable accent néandertalien, « Tu fais vraiment trop de bruit. Range mieux tes silex. » Dans mon sac à peau épaisse de blaireau, j'avais rangé une douzaine de silex taillés. Ils s'entrechoquent à chacun de mes pas. Je m'arrête, ramasse de l'herbe, entoure chaque silex de tiges feuillées et reprends ma route. « C'est mieux comme cela, » me dit-elle. C'est le dernier souvenir que j'ai d'elle, car à une bifurcation du chemin, elle part à droite et moi à gauche. C'est une belle route, la seule route empierrée longeant la Drôme. Nous nous tenons par la main. Elle est vêtue d'un vêtement blanc aux longs plis, moulant un corps harmonieux. Une fibule tient liée les deux pans du vêtement. Elle marche avec précaution sur cette route au pavé irrégulier, ses pieds protégés par des sandales aux lanières de cuir. Elle me dit « Tu fais vraiment trop de bruit, range mieux tes pièces ». Dans mon sac de chanvre grossier, j'ai rangé mes pièces qui s'entrechoquent à chacun de mes pas. Je m'arrête, ramasse 15 fleurs de scabieuse et mets chaque fleur entre chaque pièce. Je reprends ma route, pressant le pas pour la rejoindre. « C'est mieux comme cela, » me dit-elle. C'est le dernier souvenir que j'ai d'elle, car à une bifurcation de la route, elle part à gauche et moi à droite. C'est une belle rue goudronnée, avec de larges trottoirs à bordure de granit rose. Nous nous tenons par la main. Elle est vêtue d'un corsage blanc au col de dentelle et aux longues manches, terminées aussi par de fines dentelles du puits en velay. Une jupe plissée bleue aux fleurs blanches ondule à chacun de ses pas. Elle porte des chaussures à talons hauts aux fines lanières de cuir. Chacun de ses pas fait un bruit sec sur le trottoir. Je lui dis « Tu fais vraiment trop de bruit ». Elle enlève ses chaussures et marche pieds nus. C'est le dernier souvenir que j'ai d'elle, car à un croisement de rue, elle poursuit tout droit alors que je tourne à gauche. Je parviens sur une place. Face à moi se trouve une maison ancienne, cossue, aux poutres apparentes et aux fenêtres aux petits carreaux multicolores. Au fronton, je peux lire « Hommage à Lénine ». J'entre. Dans une grande salle haute de plafond, se tient une assemblée d'hommes cravatés, portant pantalon et veste noire, chemise blanche, ordinateur portable posé devant eux sur une longue table rectangulaire au velours vert. Ils s'entretiennent du sujet suivant. Comment nous, actionnaires, pouvons-nous augmenter nos profits en jouant sur les taux d'intérêt ? Je leur fais remarquer que les ouvrières du textile touchent nettement moins d'un dixième du prix auquel est vendu le vêtement qu'elles ont entièrement fabriqué. Mais ils me disent tous que je suis hors sujet et que cela ne les concerne nullement. Je quitte leur vénérable assemblée, sors sur la place et décide de quitter la ville pour aller voir l'océan. Quelques heures de marche et je parviens sur le sommet de la grande falaise le dominant. C'est une falaise qui a 5 ressauts rocheux, le dernier se prolongeant par une plage à pente forte. Tranquillement, je contemple la lumière ondoyant sur les vagues quand une force inconnue me pousse dans le dos avec une extrême violence. Je bascule dans le vide, chute sur le premier ressaut et me relève en constatant que j'ai perdu un bras. Déséquilibré, je bascule à nouveau, tombe sur le deuxième ressaut et y perds mon deuxième bras. Je me relève, mais la force obscure intervient à nouveau. je chute sur le troisième ressaut où je perds une jambe, puis sur le quatrième où je laisse ma deuxième. Réduit à un tronc prolongé d'une tête, je m'écroule sur le cinquième ressaut, roule dessus, heurte un rocher coupant qui détache ma tête du tronc. La tête roule sur la pente sableuse, heurte une pierre qui fait se détacher un œil. Je ne suis plus qu'un œil, mais je continue à penser. Je suis saisi par une vague et réduit à cet œil rond, je me mets à tourner en spirale jusqu'au fond de la mer où mon œil se dépose délicatement sur un diamant noir aux mille facettes qui se met à parler et me dit « Je suis le pouvoir absolu. Que viens-tu faire ici, toi qui n'en as aucun ?» Je lui réponds « Je suis un regard qui pense. J'ai comme toi la puissance de la pensée. » Il me dit « La puissance passe par un corps intact. Tu n'es qu'un œil. Tu n'as plus ni bras, ni jambes, ni tête. Où est ton pouvoir ?» Je lui rétorque « La pensée est volatile. Elle s'incarne où elle veut. Aujourd'hui, elle est dans un œil. Demain, elle sera à nouveau dans un corps, avec tête, bras et jambes, ou dans une feuille qui bouge dans le vent. Elle est libre. Certes, l'œil qui pense a moins de pouvoir que toi, le diamant noir du pouvoir absolu. Mais il n'en est pas totalement dépourvu. Quand elle a pensé, elle a le pouvoir de te dire non, car contrairement à ce que tu penses, ton pouvoir n'est pas absolu. Il est contingent et unidirectionnel. Je sais que tu jalouses la pensée, car elle peut te traverser de part en part et elle t'est insaisissable. « Je vois, me dit-il, que monsieur est philosophe. Cela me plaît, mais me déplaît aussi. Et pour te prouver que mon pouvoir est absolu, je te donne l'ordre de te réveiller. Réveille-toi, c'est un ordre. » Et d'un seul coup, je me suis réveillé. Ce n'était qu'un rêve, mais un rêve étrange parcourant les siècles et se terminant par un diamant noir. »